je prends un cours par session, je fais une maîtrise à temps partiel, lentement mais sûrement. Et puis, j'avais un devoir à remettre ce vendredi, donc j'ai rushé un petit peu là-dessus, mais le Seigneur est bon. Et puis, j'ai dû prendre l'autobus, ça était, elle est parmi nous, elle est arrivée, mais elle était à un enterrement de vie de jeune fille, donc ça fait longtemps, mais j'ai pas pris... Ouais, à Gatineau. Donc, elle était partie avec la voiture. La dernière fois que Elsa était partie avec la voiture, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais pris mon vélo puis j'étais arrivé ici tout trempé. J'ai décidé cette fois-ci de prendre l'autobus pour être plus sûr et plus sec. Mais c'était bien. J'ai rencontré en fait Marie-Joséphine qui vient à l'église. C'est comme si j'ai une voix qui. Ouais, c'est ça. Okay. Ça fait drôle. Donc, c'est ça, j'ai croisé Marie-Joséphine qui revenait du travail, elle travaillait de nuit. Donc, on a pu parler un petit peu ensemble sur le retour. Donc, c'est ça. Eustan, on est rendu dans l'avant-avant-dernière semaine déjà. Donc, ça avance vite, on va bientôt terminer. Et puis, cette semaine, c'était sur le titre de la semaine, c'était « Paul écrit aux dirigeants ». Et en fait, j'aimerais commencer avec quelques citations que j'ai sur le thème du contentement, parce que c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Et en fait, j'ai regroupé les citations en deux groupes, groupe A et groupe B. Et je vous demande à quel groupe est-ce que vous vous associez le plus présentement, à ce moment-ci, aujourd'hui, ou ces temps-ci de votre vie. Et puis, donc, un groupe va parler positivement du contentement, mais l'autre groupe va démontrer que peut-être que si on se contente trop souvent, on passe aussi à côté de choses qui sont bonnes. Donc, OK, je lis mes citations. Groupe A. Celui qui n'est jamais content ne contente jamais. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression, un éternel insatisfait. Donc, c'est plate d'être tout le temps avec quelqu'un qui n'est jamais content. Un pauvre est celui qui ne sait pas se contenter de ce qu'il n'a pas. Un pauvre est quelqu'un qui ne sait pas se contenter. Un pauvre est celui qui ne sait pas se contenter de ce, ouais, mais ça dit de ce qu'il n'a pas, mais dans le sens que peut-être, ça se peut, j'ai mis une négation là. Ça marche? Mais il me semble, j'avais pensé, mais là, je suis pas capable d'exprimer comme en quoi ça expliquerait positivement le contentement. Un pauvre est celui qui ne sait pas se contenter de ce qu'il n'a pas. Bon, on va la passer. Il y en a des meilleures que celle-là. C'est bon? Ah, Michel a dit c'est bon. OK. J'étais furieux de ne pas avoir de souliers. Alors, j'ai rencontré un homme qui n'avait pas de pieds et je me suis trouvé content de mon sort. Proverbe chinois. OK, quatrième du groupe A. Ce que j'ai gagné à voyager en France, c'est surtout le fait d'avoir appris à mieux me contenter de mon propre pays. OK, je pensais que la France était quand même beau. Et la dernière pour ce groupe-là, la tempérance est pas mal imagée, là. La tempérance, la maîtrise de soi, est un arbre qui a pour racine le contentement de peu et pour fruit le calme et la paix. OK, ouais. C'est une bonne illustration. Donc, la maîtrise de soi est capable de la sobriété ou d'autres termes. Donc, dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'une personne qui se contente de peu à la base va être quelqu'un qui va avoir la maîtrise de soi et qui va avoir comme fruit le calme et la paix. Donc, des belles valeurs du contentement. Mais regardez le groupe B maintenant. OK. Il est de très mauvais goût de se contenter du médiocre quand l'excellent est là et nous attend. Donc, c'est vrai que le contentement, dans un certain sens, peut nous faire passer à côté du meilleur, n'est-ce pas? Ne te contente pas de qu'est-ce que c'est, mais essaie de savoir le pourquoi et le comment. Ça, c'est moi. Toujours comprendre. Je suis pas content de... Je veux comprendre toujours plus le pourquoi du pourquoi. Celui qui n'a pas le goût de l'absolu se contente d'une médiocrité tranquille. Peut-être qu'on peut passer même à côté de Dieu avec le contentement, se contenter de choses d'ici-bas, et on peut peut-être même passer à côté de Dieu. Les deux sont belles, les deux dernières. Si tous les hommes étaient parfaitement contents, il n'y aurait plus d'activité dans le monde. Mais c'est pas vrai. Si on est tous satisfaits à 100%, on va tout plus bouger, mais on va juste être. Et les hommes nous enseignent à penser comme des poules, bien que nous soyons des aigles. Étendez vos ailes et envolez-vous, et ne vous contentez jamais des grains que l'on vous jette. James Agri. Bon, ça, il y en avait plein d'autres là, que j'ai pas nommé, mais donc, dans quel groupe est-ce que vous vous situez le plus ce matin? Je sais pas, mais levé, il y en a-tu qui sont plus dans la phase. Moi, je suis content de l'état où je me trouve, puis c'est ça que je veux développer à ce moment-ci. À main levée, est-ce qu'il y en a qui s'associent plus au groupe A? Plus ou moins. Vous avez pas un tempérament plus comme vous vous contentez comme naturellement de. Ouais, ok. Puis au groupe B, qui veulent toujours plus. Ouais, ok. Ah, on est un peu plus là. Mais donc on voit différemment la façon de le regarder. Le contentement peut être une bonne chose ou pas. Et donc aujourd'hui, c'est ça le thème que j'aimerais regarder avec vous. C'est dans 1 Timothée. Donc, le titre de mon enseignement, c'est « Contentement versus enrichissement ». Et donc, avant qu'on lise ensemble 1 Timothée 6, versets 6 à 16, j'aimerais mettre un peu en contexte les lettres que Paul écrit à Timothée. Paul a écrit cette lettre-là en l'an 65, donc c'est environ 2 ans avant qu'il soit martyrisé à Rome. Et Timothée était son disciple le plus fidèle, le plus proche, le plus important. Paul parle de Timothée dans 10 de ses 13 lettres. Fait que c'était vraiment un proche collaborateur de Paul. Et puis Timothée, en fait, a été converti par Paul quand Paul a fait son premier voyage en Galatie. Et Timothée avait environ 20 ans quand que Paul l'a rencontré. Et puis donc quand que Paul écrit la lettre présentement à Timothée, Timothée a encore moins de 35 ans parce qu'on parle de lui comme étant un jeune homme. Et à l'époque, la ligne là, où est-ce que tu es encore jeune puis tu passes soudainement à vieillesse, j'imagine. Non. C'est 35 ans. 35 ans et moins, c'est jeune, puis 36 ans et plus, c'est mature, disons. Et dans son discours aux anciens d'Éphèse aussi, dans Acte 20, Paul prédisait qu'il allait avoir des faux docteurs qui allaient venir à Éphèse et était vraiment comme inquiet de ça. Et puis, en fait, cette prophétie-là s'est réalisée. Et puis, ce que Paul a fait, c'est quand il est sorti de prison dans Acte, à la fin de Acte, Paul est en prison, mais il va sortir et puis il va retourner à Éphèse pour combattre les faux docteurs qui, la plupart d'entre eux, vont enseigner des faussetés pour avoir un gain, pour des questions d'argent. Ils vont essayer de se faire de l'argent comme ça. Ils vont infiltrer l'Église, ils vont causer beaucoup de troubles. Donc, Paul va aller à Éphèse avec Timothée après sa sortie de prison. Et puis, il va partir à un moment donné, mais il va laisser Timothée là pour s'occuper, dans le fond, qu'à Éphèse, tout est en ordre, que tout est bien. Donc, c'est un petit peu ça le contexte, et c'est vraiment intéressant de savoir que, dans le fond, grande ligne, pourquoi Paul a écrit cette lettre-là? Mais c'est d'abord pour donner des instructions précises à Timothée, c'est comme sa description de tâche, pour qu'il puisse fixer ses priorités. Et donc là-dedans, dans cette lettre-là, il va parler de comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, il va comment exhorter, comment diriger le culte public, et aussi choisir ses collaborateurs. Il y a entre autres la liste de toutes les vertus que les dirigeants devraient entretenir dans cette lettre-là. Aussi, Timothée est en but à des oppositions. Il est comme vraiment dans un ministère de confrontation. Et puis, Paul l'encourage au travers de cette épître-là. Et puis, c'est en même temps une épître qui va servir à justifier son action et puis à lui servir de mandat apostolique. Timothée est un délégué apostolique, donc il y a quand même une autorité qui est importante dans l'Église. Donc, lisons maintenant ensemble 1 Timothée 6, versets 6 à 16. « Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et par laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres et devant le Christ Jésus qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate, garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a pu voir ni ne peut voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Père Céleste, je te remercie pour cette belle parole. Je te demande de, par ton esprit, guider toutes choses ce matin, afin qu'on puisse être édifiés et puisse prendre ces deux poissons et ces pains, Seigneur, pour les multiplier et nourrir ton peuple. Je te demande de vraiment ouvrir les cœurs, les oreilles, et puis fais ton œuvre dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, dans ce texte-là, il y a au moins deux sortes de désirs qui, dans le fond, nous pousseraient à avoir plus. Le premier, c'est d'ordre matériel, financier, les possessions, dans le fond, concrètes, si on veut. Et de l'autre côté, c'est plus spirituel, rechercher la justice, la paix, l'amour, etc. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que j'aurais aimé lire ensemble 1 Timothée au complet, mais 21 versets, je trouvais ça long. Et donc, je me suis contenté de cette portion, on pourrait dire, au milieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul va comme mettre un bloc dans son chapitre 6, il va mettre un bloc en plein milieu, où est-ce que c'est comme bizarre quand tu lis, parce qu'il parle des possessions, il parle du contentement. Il va notamment dire, donner cette idée que hein, quand on apporte quelque chose du sein du ventre de notre mère dans le monde, on n'arrive pas avec un cellulaire ou avec une voiture, on est avec rien, on n'apporte rien quand on est. De la même manière, quand on meurt, est-ce qu'on apporte quelque chose dans l'autre monde? Non, on n'apporte rien. Donc, si au moment de notre naissance et au moment de notre mort, il n'y a pas de possession en jeu, mais pourquoi est-ce que la vie se tournerait autour des possessions? Pourquoi est-ce que la vie concernerait la recherche d'un gain financier ou gain matériel? Donc, c'est vraiment une image intéressante que Paul utilise pour dire que, dans le fond, le contentement sur les choses matérielles devrait être notre ligne de conduite, si l'on veut. Et après, il va parler, comme on a lu tantôt, de l'amour de l'argent, que c'est un mot, c'est comme la racine de tous les mots, il va dire. Même que plusieurs, dans l'Église à l'époque, cherchant ce genre de choses-là, il dit qu'ils se sont infligés à eux-mêmes des tourments. Et donc, c'est un facteur de déviation spirituelle que de être trop focusé sur les choses matérielles ou sur les plaisirs de ce monde. Et donc là, après ça, Paul, il va parler de quelque chose que je vais venir, et il va revenir après ça sur les richesses. Et au verset 17, qu'on n'a pas lu, on a arrêté à 16, il va dire « Recommande aux riches du siècle présent de ne pas… » Donc, en plein milieu, qu'est-ce que Paul met? Ben, Paul, il va parler de deux confessions. Regardez ceci, les versets 12 et 13. Et je trouvais ça intéressant, ça a piqué ma curiosité. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te le recommande devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres et devant le Christ Jésus qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Pilate. Là, c'est là qu'il va donner d'autres recommandations. Garde le commandement, etc. Mais c'est quoi les deux belles confessions? De qui on parle? OK, une de Timothée. Et l'autre de Jésus. Donc, il parle sur la question des finances, sur la question la soif de posséder plus. Et à un moment donné, il parle de deux confessions différentes et qui semblent, pour moi, quand je lis le texte, c'est comme si, OK, pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Je comprends pas exactement le lien. Et là, moi, ça m'a posé des questions. Je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'est-ce que Paul veut dire par ces confessions-là. Pourquoi il rappelle une confession à Timothée? Et en quoi consiste la confession qu'il a faite? Il dit aucunement rien sur le contenu. Et de la même manière, à quoi faisait référence vraiment la confession de Jésus devant Pilate? Est-ce qu'on le sait? On n'a aucune idée. Donc, je trouve ça intéressant de réfléchir sur c'est quoi le lien entre les confessions que Paul parle dans ce passage-là et la question du contentement, de l'enrichissement, de vouloir plus sur le plan matériel ou spirituel. Et en fait, donc ici j'ai mes questions. À quelle confession plus précisément Paul fait-il référence? Et quel rapport entre ces deux confessions? Et surtout, quel rapport avec le contexte sur les finances ou sur l'argent ou sur les richesses? Et là, c'est intéressant parce que selon Matthieu, Marc et Luc, la confession de Jésus, c'est ça. Pilate dit à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus, tu le dis. Belle confession. T'es du chrétien? Tu le dis. C'est pas très convaincant, personnellement. Et il nous reste juste Jean, là, parce que là, Matthieu, Marc, Luc sont vraiment univoques, ils sont tous d'accord. C'est ça la confession de Jésus devant Pilate. Bon, fait que si on se tourne vers Jean, qu'est-ce qui se passe? On va voir. Toudou. L'évangile de Jean affirme que Jésus dit plus que cela. Bon. Fait que j'ai gardé les deux versets de Timothée, d'un Timothée 6 en haut, et j'ai rajouté Jean 18, 36, où est-ce que là, on voit Jésus dit plus de choses à Pilate. Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Est-ce que vous êtes capable de faire un lien? Je vous laisse 15 secondes pour réfléchir à ça. Est-ce que vous êtes capable de faire un lien entre Jean 18, 36 et les deux versets en haut? 15 secondes. C'est un super beau passage parce que Paul, justement, là, on l'a pas lu, là, mais à la fin, il va dire « Amassez-vous un trésor dans les cieux afin de saisir la vraie vie. » Donc, c'est comme ça semble vraiment être lié aux paroles de Jésus dont tu fais référence. D'autres personnes voudraient s'essayer sur le lien entre... les deux passages? Exactement. C'est ça, moi, le lien qui m'a frappé, c'est dans les deux cas, on parle de combat. Combat, le bon combat. Et là, Jésus devant Pilate, il lui dit, ben en fait, Jésus répond à la question, est-ce que tu es roi? Puis là, Jésus, il dit, tu le dis premièrement, mais après ça, il précise quelle sorte de roi il est. Il est un roi spirituel. Fait que, mais s'il était un roi politique, là, il aurait été un problème à César, mais non, il va pas. Ses disciples vont pas combattre politiquement, militairement, parce que son royaume, c'est un royaume spirituel. Donc, mais ce qui est sous-entendu, c'est que ses disciples combattent d'une certaine manière, right? Spirituellement, exactement. Donc, je relis Jean 18, 36. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Donc, moi, je pense que Paul est en train de dire à Timothée, rappelle-toi la confession de Jésus qui nous appelait à combattre pour lui, pour son royaume, et ne laisse pas la question des attraits de ce monde, des richesses de ce monde, des possessions, te faire dévier du vrai combat auquel tu es appelé pour Christ. Combat le bon combat. Donc ça, je pense vraiment que c'est un lien que Paul fait en rappelant à Timothée la confession de Pilate. Et puis, c'est facile parfois dans des petits aspects de notre vie de laisser les finances prendre ou orienter notre espérance dans la vie. C'est comme dans le fond, on utilise l'argent pour trouver une certaine satisfaction dans le monde ou un certain contentement dans le monde, alors que on devrait se contenter en Dieu. Puis des fois, ça peut. Je vais vous donner un exemple bien normal. Moi, c'est les livres. Je confesse devant tout le monde. Je me contenterai pas de. J'ai toujours plus de livres et j'en achète plus que qu'est-ce que je suis capable d'en lire. Mais Seigneur me dit en faisant ce message-là, Sonny, là, stack tes livres, là, contente-toi, là, puis contente-toi là, de les lire. Moi, j'en lis déjà beaucoup, mais contente-toi de ce que t'as, puis concentre-toi sur moi, puis. Mais c'est banal, les livres, c'est pas une grosse affaire. Je suis pas ici avec une Lamborghini, et c'est pas ça, c'est des petites affaires, mais Seigneur, au travers de ce partage-là, m'a dit, Seigneur, c'est une concentre-toi là-dessus, contente-toi à ce niveau-là, un peu plus. Et pense pas que le prochain livre qui vient de sortir, ça va être ça qui va te rendre super comme joyeux, comme si j'allais découvrir la vérité de que je cherche incessamment. Deuxième passage. Encore là, est-ce qu'il y a un lien? Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Est-ce que vous voyez un lien encore? Right on, en plein dans le mille. Regardez verset 13 en haut, là, le deuxième verset. Je te le recommande devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres et devant le Christ Jésus qui a rendu témoignage par sa confession. Et là, comme Jésus dit, je suis né pourquoi? Moi, c'est quoi mon horizon? C'est quoi la raison pour laquelle je suis ici bas? Pour rendre témoignage de la vérité, pour parler de Dieu, pour faire connaître Dieu, pour incarner Dieu, vous montrer l'amour de Dieu, la patience, la perfection de Dieu, etc. Donc c'est pour ça. Et à la toute fin de sa vie, Jésus était capable de dire, dans le fond, une dernière invitation en fait à Pilate, hein, parce que Pilate va dire qu'est-ce que la vérité. Et Jésus répondra pas à ça, mais on sait dans l'évangile de Jean, Jésus avait dit quelques chapitres plus tôt, « Je suis la vérité, le chemin et la vie. » Et donc, le combat, le bon combat, c'est, faut pas se laisser dériver, si on veut, par des questions périphériques comme l'argent ou la quête de possession, etc., mais rester focusé sur le témoignage que Jésus nous appelle à avoir dans ce monde. Et Jésus, justement, qu'est-ce que le diable a fait au tout début de l'évangile par rapport à Jésus? C'est essayer de le faire dévier de ce témoignage qu'il avait à rendre en lui proposant des différents moyens, que ce soit politique, que ce soit religieux, tu sais, de laisse-toi tomber en bas du temple et c'est écrit que les anges vont te porter puis ton pied ne heurtera pas. C'est comme Dieu va même faire des miracles pour te protéger, que ça va séduire tout le monde, puis tu vas être acclamé. Mais non, Jésus a refusé, il citait la parole constamment, et puis il est resté focus sur ce que Dieu l'appelait à faire. Mais il y a un dernier verset encore dans Jean, Jean 19, verset 11. Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Bon, on a fait deux, on va en faire un troisième. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Il y a encore un lien. Bon, c'est ce lien-là que moi j'avais fait aussi. C'est, dans le fond, t'as tout dit. J'allais tout redire, mais exactement. Dans le fond, verset 13, devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres, puis Jésus, une fois qu'il est devant Pilate, t'as aucun pouvoir sur moi si c'est pas Dieu qui te l'avait donné. Puis, fait que, dans le fond, Dieu est souverain, et puis, prétends pas avoir la moindre autorité sur moi. Je suis le Fils de Dieu, et puis, Dieu pourrait enlever ton souffle à l'instant même, ton battement de cœur à l'instant même. Et puis, il y a rien que Dieu nous donne. En fait, cette idée-là est reprise dans 1 Timothée 6, quelques versets plus loin qu'on n'a pas lu. J'aimerais juste le lire avec vous. 1 Timothée 6 reprend cette idée-là. Verset 17. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance afin que nous en jouissions. » Donc, tout ce que l'on a, c'est Dieu qui nous le donne, et il nous le donne pour qu'on en profite, qu'on en jouive, qu'on aime la vie, etc. Mais tout ce que l'on a, ça vient de Dieu. Donc, Jésus devant Pilate, il lui dit, pense pas que tu as une autorité sur moi, c'est Dieu qui te la donne. Et puis, c'est dans le plan. C'est dans le plan que je meurs, que je sois livré, etc. Et puis, c'est vraiment intéressant parce que Paul est écrit en 65, hein, comme j'ai dit tantôt, et l'évangile de Jean a été écrit, selon les érudits, là, en 90 ou 95. Donc, c'est 30 ans, 35 ans plus tard. Mais, juste avec les liens qu'on a faits ici, c'est comme si on voit que dans la tradition orale, où déjà les apôtres parlaient de cette belle confession que Jésus avait faite devant Pilate, et cette confession-là était connue de plusieurs chrétiens, dans plusieurs églises. Donc, il y a vraiment... d'après moi, une tradition qui est là, qui est historique derrière ça et qui était partagée par plusieurs. Maintenant, il nous reste la confession à Timothée. Cette confession-là, bon, plus rapidement, la confession à Timothée, Paul fait référence à son baptême. À son baptême, Timothée a fait une confession de foi devant tout le monde. Et puis, en fait, cette confession de foi-là, probablement qu'elle ressemblait à quelque chose comme ce que l'on trouve en 2 Timothée, versets 8, 11, 12 et 13. Je vais vous lire ici. En fait, c'est ça, c'est un érudit qui a en études bibliques un domaine qu'on appelle, dans le fond, la critique des formes, qu'on est capable de déterminer les citations que Paul utilise, comme parfois Paul va citer l'Ancien Testament, parfois il va citer des poètes grecs d'autres auteurs, et parfois Paul va citer des chants chrétiens, des chants qu'on chantait le dimanche matin, ou bien que ce qu'on appelle des hymnes baptismales, donc des hymnes, des cantiques qu'on faisait lors des baptêmes. Et puis dans 2 Timothée, Paul va citer une de ces hymnes là, et puis c'est probablement le genre de choses que Timothée aurait confessé. C'est dans 2 Timothée 2, verset 8. Donc là, on voit, il y a comme un peu un renvoi, comme si quelqu'un dirait au baptisé, après s'avoir baptisé, là, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David. Donc souviens-toi dans les jours à venir, dans les années à venir, dans les décennies à venir, souviens-toi toujours de Jésus-Christ. Et par la suite, le baptisé disait sûrement quelque chose comme « Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. » Et ce genre de hymne-là ou de confession-là visait à avoir comme un horizon de vie. C'est vraiment, si nous sommes morts avec lui présentement, si spirituellement le baptême c'est ça, hein, le baptême on s'associe à la mort de Jésus et on s'associe aussi à sa résurrection, et sa mort représente la fin de notre vieil homme, de nos vieilles tendances pécheresses, et sa résurrection représente le commencement de notre nouvel homme, de nos nouvelles tendances, nos nouveaux désirs, le nouveau cœur. Et donc, si nous sommes morts avec lui, nous vivons, c'est au présent, nous vivrons au futur. Donc, ça renvoie à la résurrection qui est à venir dans le futur. Et si nous persévérons, nous régnerons encore au futur. Si nous le renions, nous le renions. Lui aussi nous reniera au futur. Donc, le point de la confession de Timothée, c'est d'avoir comme un horizon, ce que je disais par là, vous avez déjà vu un beau coucher de soleil, là, où est-ce que, dans le fond, le ciel coupe la terre, si on veut, puis dans un éclat de couleurs splendides. Mais l'horizon, c'est le point le plus loin que notre vision est capable de voir, dans le fond. C'est ça, l'horizon. Et puis, Timothée, dans le fond, est invité à toujours mener sa vie en fonction de son horizon ultime. C'est quoi? C'est justement, Paul va, pour, là je reviens dans 1 Timothée, mais dans 1 Timothée, là Paul va faire référence au retour de Jésus. Garde le commandement sans tâche, j'ai le verset 14 qui suit les deux versets qu'on a là au tableau. Donc, garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Donc, garde le focus sur le retour du Seigneur, sur le fait que Jésus va revenir à un moment donné de façon imminente, sans qu'on puisse le prévoir. Et ou bien, si c'est pas du haut des cieux, ça va être individuellement, on peut venir nous chercher n'importe quand. Donc, garde comme horizon de vie ce point ultime de rencontre avec Jésus, où est-ce qu'on va le voir face à face. Et puis les autres questions, comme la question des finances, des biens matériels, tout ça, examine toujours ça à la lumière de cet horizon, de ce point plus loin qui est ton but de vie, dans le fond. Et ça, c'est intéressant parce que Jésus avait dit quoi à Pilate? Il avait dit, c'est pour ça que je suis né, pour rendre témoignage à la vérité. Donc, pourquoi êtes-vous né, vous? Pourquoi suis-je né, moi? C'est certainement ça a un lien avec le bon combat, combattre le bon combat, témoigner, être en communion avec Christ et puis le faire connaître. Mais bref, je regarde le temps. Okay. Le contentement dans les choses du monde et l'enrichissement dans les choses de Dieu devraient toujours être les deux volets qui nous habitent. Et puis Dave Toyson a dit ceci. En fait, il dit que pour lui, la générosité est comme la locomotive du train des vertus. Donc, la générosité est comme la locomotive du train des vertus. Un train a plusieurs wagons, si on veut, mais il y en a juste un qui tire toutes les autres en avant. Donc, pour lui, c'est la générosité qui fait qu'une personne, mettons, va être patiente. Si t'es patient, c'est parce que t'es généreux, t'es capable de, je sais pas, de te plier soit au temps de l'autre ou à la façon de faire de l'autre, etc. Si t'es d'autres vertus, aidez-moi, là, je sais pas. La joie, ok. L'humilité, la patience, l'amour. L'amour, c'est viser le bien de l'autre et se préoccuper de l'autre et valoriser l'autre. Donc tout ça, pour lui, c'est la générosité, le fait qu'on a une attitude généreuse qui va faire que toutes les autres vertus vont se développer. Et puis il dit aussi que la meilleure façon d'être généreux, c'est pas de comme donner un gros 500$ à un pauvre dans la rue que tu rencontres. C'est super si tu peux faire ça, mais c'est plutôt à chaque jour dans les petites choses, un sourire, juste prendre le temps d'écouter une personne, ce genre de choses là, c'est la générosité. Et puis donc c'est intéressant parce que Paul parle tout de suite après de recommandations aux riches. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre, on l'a lu tantôt, là, mais de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, etc. Puis plus loin, il va donner plus de recommandations concrètes encore. Versets 18 et 19. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir afin de saisir la vraie vie. Et donc, c'est cette vie de générosité qui est la vraie vie, cette vie centrée sur Jésus avec un horizon, avec un but et avec des valeurs bien définies que Paul nous invite à avoir et puis à se libérer de cette illusion que un livre de plus, ça va m'apporter la satisfaction. Ou que, je sais pas, c'est quoi pour vous? C'est-tu des vêtements? C'est-tu une sortie de plus? C'est-tu un voyage dans le sud de plus? Toutes ces choses-là sont bonnes, mais c'est plutôt dans l'illusion que ça va vous satisfaire un jour, que là, il y a une erreur, là. Puis il faut être capable de juste se dire, Seigneur, je veux apprendre à me contenter plus dans ce domaine-là. Et puis, me concentrer sur toi. Je vais terminer avec un passage d'Ésaïe qui résume bien toute la prédication. Ésaïe 55, versets 1 à 3. « Ô vous qui avez soif, venez vers les eaux. même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Donc, beau verset qui dit dans le fond, pourquoi est-ce que vous peinez, vous dépensez pour du pain qui ne va pas vous rassasier? Puis le prophète invite les auditeurs à venir à lui et puis dans le fond, qui a les paroles de Dieu et qui les transmet pour que leur âme vive, pour que cette partie la plus profonde d'eux qui aspire à avoir un certain contentement puisse trouver satisfaction en Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Puis nous sommes en prière. Eh bien, Père Céleste, je veux te remercier pour ta parole qui est tellement riche et pour ton Fils que tu as donné à la croix. 2 Corinthiens dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, du riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis.